Eric Vanneville est historien spécialiste de la Flandre. Il a récemment publié « Légendes de Flandre, au fil de l'histoire » aux éditions Joran Ambaner, une autre manière de revisiter la mémoire collective d'une région et d'en raconter son histoire. Alors Eric Vanneville, sur quelles sources avez-vous travaillé pour nous raconter ces légendes flamandes ?
Je dirais toutes les sources qui existent de façon écrites, et qui ont souvent été mises par écrit à partir du XVe siècle. Parce que les légendes ont beau se rapporter en grande partie au premier siècle du Moyen-Âge, souvent elles ont été mises par écrit à partir du XVe siècle. Bon. L'exemple type, d'ailleurs, c'est la légende de Lidéric et Finart, qui a été écrite vers 1400, alors qu'elle concerne des événements qui se passent en pleine période mérovingienne.
Et pourquoi le XVe siècle est un siècle où on écrit les légendes ?
Et justement, là, on entre dans l'explication. Le livre que j'ai écrit, c'est pour montrer que les légendes ne sont pas écrites innocemment. Le mot légende veut dire qui doit être lu. Donc, on veut faire passer un message. La personne qui écrit la légende, elle veut faire passer quelque chose. Et là, la légende de Lidéric et Finart, par exemple, au début du XVe siècle, la Flandre fait partie des possessions bourguignonnes, et les bourguignons, dans le conflit franco-anglais de la guerre dite de Cent Ans, qui en fait a duré plus longtemps, eh bien les bourguignons ont pris le parti de l'Angleterre. Et alors quand on sait que l'origine de la légende, le début de l'histoire, c'est ce noble bourguignon qui s'en va en Angleterre, tout naturellement, la liaison entre la Bourgogne et l'Angleterre, et qui passait par la Flandre, c'était tout ce qui avait le plus naturel et tout ce qui avait le plus fréquent, hein, à l'époque où la légende est écrite. Bon, ça c'est un exemple. Et alors, pour revenir à votre question sur les sources, à part les sources écrites, il y a aussi les sources chantées, j'allais dire. On a, nous, en Flandre, et là j'étais très, très intéressé par l'intervenant précédent, on a, nous, en Flandre, un héritage musical et de chansons assez extraordinaire. Hein. Toutes nos chansons traditionnelles, elles racontent presque toutes de magnifiques histoires. Alors, je vous le concède, elles sont en flamand. Mais enfin, bon, hein, ça ne doit pas décourager les gens du coin. On a quand même dans notre région, je dirais, entre Bayeul et Dunkerque, on a quand même encore aujourd'hui un certain nombre de gens qui comprennent très bien le flamand et qui sont tout à fait capables de vous raconter des histoires qu'en fait, ils ont entendues quand ils étaient plus jeunes et qu'ils les ont entendues chanter. Hein, du chant au conte, il n'y a pas loin. Mais ici, encore une fois, j'ai sélectionné, dans tout ce riche patrimoine flamand, j'ai sélectionné les histoires qui sont de véritables légendes, donc celles écrites avec une intention de former, hein, oui, quasiment d'encadrer, hein, oui, la population.
Avec une morale, etc. Oui. Vous avez évoqué le mot conte. Quelle différence y a-t-il entre une légende et un conte ?
Le conte est beaucoup plus imaginaire. Dans la légende, il y a toujours le but qui consiste à former une idée, hein, à inculquer en quelque sorte une idée dans la tête des gens qui vont écouter les légendes. Bon, c'est très clair dans certaines légendes, par exemple Saint-Mauran à Douai, ou Jeanne Mayotte à Lille. L'exemple de Jeanne Mayotte à Lille, c'est extraordinaire. Jeanne Mayotte, sa légende a été inventée pendant la contre-réforme catholique, disons vers 1610-1620. Et ça se réfère à un épisode qui n'a jamais eu lieu, que la légende est censée se passer vers 1580. Et Jeanne Mayotte, fille de l'aubergiste Célestin Maillot, va repousser les hurlus, les protestants qui voulaient envahir la ville de Lille. Cette légende vise à montrer que quand on est une fille du peuple, on est naturellement catholique, et que quand on est catholique, on est aidé par le ciel et on peut arriver à tout, et on peut renvoyer les protestants se faire voir ailleurs, même si on n'est pas une femme de guerre. La religion aidant, le ciel aidant, surtout le ciel, je dirais, catholique, eh bien, il n'y a pas de souci et on va repousser les ennemis sans difficulté aucune. C'est ça la légende, la différence essentielle entre la légende et le conte. Tandis que le conte, c'est le pur plaisir imaginaire.
Donc du coup, la légende, elle est instrumentalisée, là.
La légende instrumentalise. Oui, c'est vrai, la légende instrumentalise. Mais alors, on a quand même aussi de merveilleux artistes qui savent vous raconter de merveilleuses légendes. Et à ce moment-là, on est proche du conte. On est proche du conte. Hein
Mais la valeur éducative des deux est de toute façon pas contestable, parce que le conte aussi est éducatif.
Ah, le conte a une valeur éducative, je dirais, littéraire. On apprend à rêver. D'abord, il faut rêver, c'est important. On apprend à rêver, on apprend à raconter. Moi, vous savez, j'ai commencé par les contes quand j'étais beaucoup plus jeune. Hein, j'ai fait les colonies de vacances et je me souviens, chaque fois qu'il pleuvait dehors, le directeur du centre, il disait « Bon, c'est pas grave, on va tous les mettre dans la grande pièce, là, Eric, il va leur raconter des histoires. » Bon, eh ben, ça, c'est fantastique, raconter des histoires. Moi, c'est un plaisir immense. Hein.
Oui.
Et puis après, comme j'ai fait histoire, je me suis dit « Tiens, je vais voir dans quelle mesure, dans les histoires qu'on raconte, il n'y a pas certaines d'entre elles qui sont en relation avec l'histoire. » Et je me suis aperçu que souvent, la relation avec l'histoire, ce n'était pas dans le conte, c'était dans la légende. Hein, et je fais attention à ne pas confondre les deux.
Très bien. Sur quel terreau historique prennent naissance les légendes en Flandre ?
S'il vous plaît ?
Le terreau historique de naissance des légendes en Flandre.
Le terreau historique, disons les périodes dans lesquelles la légende est privilégiée, c'est indiscutablement les Mérovingiens, les Carolingiens, Charlemagne, bon, les grands saints évangélisateurs, hein, Charlemagne, l'arrivée des Normands, l'arrivée des Vikings, hein, ça c'est vraiment la période qui se prête le plus aux légendes. Et puis naturellement, le rôle pratique que va jouer l'Église pour aider les Flamands, pour aider les Flamands à combler leurs terres et à en faire des pays tout à fait vivables. Et dans ce domaine, d'ailleurs, l'une des légendes les plus répandues, c'est celle du Reus de Cassel. Celle du Reus de Cassel, dont il faut bien voir qu'il a surtout aidé les gens de Cassel à bonifier leurs terres. Quand on pense que le Reus de Cassel, en plongeant sa main au fond de l'étang, il ramène suffisamment de sable et de terre et de boue pour constituer un monticule sur lequel va s'élever la ville de Cassel. C'est extraordinaire comme légende.
Hein. C'est vrai. Alors vous nous avez parlé des Vikings, donc les Danois ont occupé la Flandre.
Les Vikings sont arrivés effectivement chez nous au 9e siècle. Et dans les légendes, on aime bien mettre en situation quelqu'un du pays qui, souvent aidé par l'intervention d'un grand personnage, va mettre en fuite les Vikings. Alors, l'exemple type, le plus bel exemple à mon avis, c'est celui du géant de Stenvoorde, hein, Jan den Oudkap, Jean le Bûcheron. Jean le Bûcheron, bon, à l'époque, le bûcheron dans un village, il savait tout faire, donc c'était, l'artisan, le menuisier, le chaudronnier, tout ce qu'on veut, il faisait tout. Et Jean a rencontré Charlemagne qui s'en allait vers les Saxons, vers le pays habité par les Saxons, pour les réprimer leur révolte, parce qu'à chaque printemps, les Saxons se révoltaient. Et donc, à chaque été, Charlemagne prenait le chemin du pays des Saxons. Et il passait par la Flandre, naturellement, parce qu'il passait par la côte, par les pays bas. Les bas pays. La Flandre, c'est une partie des bas pays. Hein. Nous sommes des méridionaux, nous sommes les méridionaux des bas pays. C'est nous. Et Charlemagne passait par là et il rencontre Yann. Et Charlemagne, qui était très grand, il avait usé ses chaussures sur son cheval parce que le cheval était plus petit et lui était assez grand, 1m90. Il avait usé ses chaussures. Alors Yann, il lui a offert une belle paire de chaussures très solides. Et Charlemagne était tellement content qu'il lui a offert un bouclier, une épée, etc. Et quand Charlemagne est mort, peu de temps après, quand les Vikings sont arrivés dans la région de Stenvoorde, Yann de Nordkap, il n'a pas eu peur. Il était tout seul à se battre contre tous les Vikings, mais grâce au bouclier de Charlemagne, il y a l'épée de Charlemagne, qui avait sûrement un pouvoir extraordinaire, il a mis en fuite les Vikings d'une façon, je dirais, très facile.
Eh bien, voilà une belle histoire. Alors, vous expliquez dans votre livre la naissance du blason flamand.
Oui, le blason flamand, oui. Alors, tout le monde sait aujourd'hui, enfin, je pense que c'est le lion des Flandres. Hein. Et le lion des Flandres, c'est une légende. On nous raconte que le lion était ramené des croisades par un comte de Flandre qui, au retour, s'est arrêté pour ravitailler sur le littoral adriatique. Et là, il a dû affronter un potentat local qui ne voulait pas le laisser aborder. Alors, il l'a défié en combat singulier. Il a gagné le combat singulier. Et il lui a piqué son blason, qui était un lion, un beau lion. Hein. Et donc, d'après la légende, le lion des Flandres, c'est ça.
Hein, et c'est le lion albanais.
C'est le lion, hein, comment ?
C'est le lion albanais, vous dites dans votre livre,
qui s'est
arrêté.
Oui, c'est ça, le lion albanais, tout à fait.
En Albanie,
oui,
objet,
hein, voilà. Le long du littoral adriatique, là. Ça, c'est la légende. Bon, la réalité, c'est pas tout à fait ça, puisque le lion des Flandres apparaît 50 ans avant le moment où est censé se passer la légende. Bon. C'est tout simplement une influence anglaise, parce que oui, le comte de Flandre s'était fâché avec le châtelain de Ypres, et le châtelain de Ypres s'était enfui en Angleterre. Il y est resté une trentaine d'années, et quand il est rentré se réconcilier avec le comte de Flandre et son successeur, quand il est rentré, il a ramené avec lui le léopard anglais, et à partir du léopard anglais, il a un peu modifié, c'est devenu le lion des Flandres, le premier lion des Flandres.
Voilà. Intéressant ce lien avec l'Angleterre toujours. Alors, qu'est-ce que la Hanse flamande de Londres, qui est beaucoup moins connue que la Hanse germanique?
La Hanse flamande de Londres, c'est une association au départ de 17 villes flamandes. On l'appelle de Londres parce que le roi d'Angleterre, encore une fois, l'Angleterre et la Flandre ont une histoire économique
commune.
Et le roi de Flandre avait persuadé les villes flamandes que c'était dans leur intérêt de mettre le siège social à Londres. Il leur accorderait des tas d'avantages. Donc ils ont mis leur siège social à Londres, hein, tout simplement. Et ça s'est bien développé. Alors au sein de cette Hanse, bon, il y avait... Effectivement, j'ai bien apprécié ce que disait mon précédent intervenant.
Nicolas Kruger.
Il y avait un sens de la collectivité de chez nous. Il y a toujours eu un sens de la collectivité très fort, de l'association. Ça, c'est certain. Hein. Chez nous, on est 3-4 personnes, on va fonder une association. Il n'y a aucun souci. Hein. Bon. Et c'était une association dans laquelle il y avait une certaine solidarité économique et on venait en aide aux villes même d'abord et puis aux individus qui en avaient besoin le cas échéant. Alors, ceci étant, ça n'empêchait pas les rivalités parce que c'était une association d'affaires et dans les affaires, il y a toujours des rivalités. La rivalité la plus connue, c'était qui de Douai ou de Lille au sein de la Hanse flamande allait avoir la préséance. Qui allait l'emporter l'un sur l'autre?
Il y a toujours eu
des chicayas entre Douai et Lille.
Et on le sait, c'est Lille maintenant. On sait qui a remporté la bataille.
Oui, Lille a dépouillé progressivement Douai de tout ce qu'avait Douai comme, je dirais, institution importante dans les Flandres.
Hein. Ah bah oui, mais c'est la bataille, hein, comme vous dites. Hein. Alors, les héros flamands sont des géants. Pourquoi sont-ils des géants, souvent?
Les héros flamands, oui, il y a les géants. Hein, les géants. Alors, à l'origine, il y en a peu des géants. Dans les légendes, on les fait venir généralement du nord. Bon, le géant de Dunkerque, c'est le Reus. Reus, ça veut dire géant, tout simplement. Donc, il ne faut pas s'ennuyer. Quand on dit le Reus de Dunkerque, c'est comme si on disait le géant de Dunkerque.
Ah oui, donc Reus papa et Reus maman, c'est géant papa, géant maman?
Ben oui.
Ah oui.
Ben oui. Ben oui, 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 c'est ça. C'est ça, géant papa, géant maman.
Eh ben, très bien.
Et le Reus de Dunkerque, il a fondé la ville de Dunkerque, mais avec le secours de Saint-Éloi. Pour raconter son histoire, le Reus de Dunkerque, c'était donc un gars venu du nord de la mer du Nord. Et puis, en arrivant devant ce qui allait devenir Dunkerque, il a fait une chute, il est tombé et il s'est blessé avec son épée. Alors les gens du coin qui étaient là, ils ont dit « bonne occasion pour nous de le mettre à mort ». Mais Saint-Éloi est intervenu, il a dit « non, 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 on ne doit pas le mettre à mort comme ça, ça ne se fait pas, ce n'est pas chrétien ». Et donc Saint-Éloi a préservé la vie du Reus de Dunkerque. Et le Reus en était tellement reconnaissant qu'après avoir été guéri, eh bien, il a suivi le conseil de Saint-Éloi. Il a épousé une bonne Flamande, hein, parce qu'on ne fonde pas une société en dehors, je dirais, des liens du mariage. Ça aussi, c'est très flamand. Hein. Et donc, il a fondé sa famille et puis il a tracé avec Saint-Éloi le pourtour de l'enceinte de Dunkerque. Hein, et c'est comme ça que Dunkerque est né. Hein. Donc là, vous voyez, il y a toute une interprétation idéologique, en quelque sorte.
Hein. Ah oui, on peut aller très très loin, finalement,
on loin
si on fouille toutes ces légendes.
Légendes
c'est ça qui est intéressant. Et de toutes les légendes, je dirais. Là, on parle des légendes flamandes, mais toutes les régions et quasi tous les pays ont des légendes fondatrices qui sont importantes dans leur histoire. Alors bon, on n'aura pas le temps de parler de Tigetageux. On a parlé de Jeanne Mayotte, ça c'est bien. Il y a la Dame Noire de Dunkerque. Vous avez un chapitre intéressant sur les runes, mais c'est bien, on ne va pas tout dire. Comme ça, il faut lire le livre d'Éric Vanneville sur les runes et leur place dans l'architecture. Et aussi des fantômes en Flandre. Et on aura, je ne vous demanderai pas à quoi ressemble un fantôme flamand. On n'a qu'à chercher.
Le nècre.
Voilà, nicker. Et puis, quand
mais on dit le nècre hein, chez nous. C'est...
Oui. Et quand il y a des fantômes, il y a le diable aussi. Une dernière question très rapide. À partir de quand les légendes cessent de naître?
Oh, j'ai envie de dire, c'est à partir du moment où l'histoire devient scientifique. L'histoire devient une science. Et à partir de ce moment-là, les légendes, tout le monde a tendance à en sourire. Alors, elles se perpétuent un petit moment dans les champs. que les musicologues, qui sont quand même des savants, vont trouver dans le fond traditionnel flamand. Et là, on doit beaucoup à Edmond de Coussemacre.
Oui, tout à fait.
De Coussemacre, si vous préférez.
Oui, moi, je ne parle pas flamand, je suis désolée.
Mais nous, on dit Edmond de Coussemacre.
Parce que tout le monde...
Je conseille à tout le monde de lire les recueils de chansons d'Edmond de Coussemacre.
Tout à fait.
La musique qui figure.
La musique qui figure et certains groupes, alors là c'est pour terminer, de manière joyeuse, certains groupes de folk en fait en Flandre ont repris...
Perpétuent les légendes flamandes.
Et chantent ces chansons, il faut se renseigner un petit peu.
Y compris au moment de Saint-Nicolas, de Noël et de la Nouvelle Année.
Tout à fait. Eh bien Eric Vanneville, merci. Je rappelle Légendes de Flandre au fil de l'histoire, votre dernier livre. Est édité chez Le Breton, Yoran en banner.